Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro et on se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravili Lemel. Bonsoir Ravili Lemel, Shabbat Shalom et Moadim Lesimcha.
Bonsoir Shabbat Shalom et Moadim Lesimcha, en effet comme vous le dites parfaitement bien.
Moadim Lesimcha qui veut dire en fait, vous allez me dire, parce qu'on utilise tout le temps ce mot, ça veut dire que la fête qui est Chol HaMoed, la fête de Sukkot, c'est a en fait un mot gentil spécifique pour lui, quoi, c'est ça?
Non, on a l'habitude de le dire pour toutes les fêtes, hein, Moadim Lesimcha.
Oui, oui, c'est ça, mais quand il y a un Chol HaMoed, quoi.
Voilà, exactement, on a l'habitude de lier les fêtes à la notion de simcha, la notion de joie. D'ailleurs, vous savez que Sukkot est Zman Simchatenu, c'est le moment de la joie par excellence. Donc voilà, on se le souhaite et que ces fêtes soient remplies de simcha, de vraie simcha, de vraie joie.
Magnifique, le Gaon de Vilna qui disait que c'est peut-être la mitzvah la plus dure, parce qu'être joyeux pendant 9 jours, pas facile forcément, et pourtant c'est une obligation. Alors, on avance dans notre réflexion sur notre paracha, comme on fait chaque semaine, et donc là on arrive au dernier chapitre de la Torah, avant d'en recommencer immédiatement le premier chapitre, puisqu'on ne s'arrête jamais, et on est sur Zot HaBracha. Et alors dans Zot HaBracha, il y a un épisode tout à fait émouvant et très beau, c'est celui de la disparition de Moshe et de son enterrement. Et j'ai toujours appris qu'on ne savait pas où était enterré Moshe Rabbeinu, parce que chez nous, il n'y a pas de culte de la personnalité. Et donc, celui qui a écrit la Torah, évidemment sous la dictée de quelqu'un qui était au-dessus de lui et qu'on connaît tous, on ne sait pas où il est enterré, en fait.
Exact. « Veloyad ifet kevuratoa dayomazé » dit le texte que Moshe, en vérité, nous ne savons pas où il est enterré. Pourtant, la Torah nous donne des détails très précis. Entre autres, elle nous dit qu'il est enterré moul Bet Peor, en face de Bet Peor, et on va s'arrêter immédiatement là-dessus. Alors, évidemment, nous savons qu'il y a cette notion d'aller sur les tombes des tzadikim, des gens justes, et d'ailleurs c'est ce que l'on fait. Vous savez très bien que cette notion de pèlerinage, elle existe. Les Hiloulot, parmi les plus célèbres, c'est le Lag BaOmer, le 33e jour du Omer, quand on va sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, ça existe, mais là, pour Moshe, ben non, il ne faut pas. Alors, il ne faut pas, quand vous regardez Rachid d'ailleurs sur place, en effet, parce que là, il y avait peut-être une possibilité qu'on en fasse comme une forme de divinité. Puis, surtout, ce que nos commentateurs laissent entrevoir, eh bien, c'est que si on avait été sur la tombe de Moshe pour le supplier d'intervenir pour le peuple d'Israël, ben, il n'aurait pas pu faire autre chose que d'accéder à notre demande, et ce n'était peut-être pas nécessairement toujours dans le plan divin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dise, voilà, il est enterré où? Et là, on nous donne un point de référence qui est quand même très curieux. Il est en face de Bet Peor. En face de Peor. Alors là, c'est quoi cette histoire? Et ben, Peor, ce n'est pas une histoire très simple. Peor, rappelons-nous, c'est le moment dans lequel le peuple d'Israël va chuter dans le désert avec le culte d'une idole qui s'appelle Peor, dont on va parler dans quelques instants. Et on nous dit, ben voilà, Moshe, il est là, en face. Alors, sur place, Rashi, et d'autres commentateurs aussi, bien sûr, vont nous dire que une des raisons, c'est parce que, justement, quand l'accusation de Peor et de ce qui s'est passé à ce moment-là se lève contre le peuple d'Israël, eh bien, immédiatement, Moshe est là et est réduit à néant cette accusation. Donc, il faut croire qu'il y a quand même ici quelque chose de très, très fort qui fait que Moshe Rabbeinu dit « Non, non, c'est là-bas ». C'est là-bas où il va être. Akadosh Baruch Hu a décidé que c'est là-bas où il va être. Parce que Moshe, même après sa disparition, il continue à intervenir pour le peuple d'Israël lorsque émerge ce moment dramatique dans l'histoire du peuple d'Israël qui est le moment de Peor. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va s'arrêter un instant sur une histoire quand même qui est lourde et qui a été eh bien, ce qui s'est passé avec les filles de Moav et de Midian lorsqu'elles ont tout fait pour entraîner le peuple d'Israël à aller faire le culte du Peor. La Torah nous dit qu'en effet, on est dans le désert, Bilam et Balak ont tenté de nous maudire, ça n'a pas marché, la guerre ne marche pas, alors ils tentent avec les filles de Moab et de Midian d'amener le peuple d'Israël à la débauche, et puis sur la base de cela, eh bien, de l'amener à faire le culte du peur. Et le peur, au fond, c'est horrible parce que c'est le culte des excréments. C'est horrible, c'est-à-dire on se dit, mais qu'est-ce que le peuple d'Israël va vers cela? Et le texte nous dit, Vaït Samed, et que le peuple d'Israël s'est attaché à cela. Alors évidemment, il faut comprendre qu'est-ce qui se joue derrière cela. Ça serait l'objet de tout un cours, je vais juste essayer d'ouvrir une ou deux notions. Tout d'abord, il est intéressant de réfléchir à cette notion donc, qu'on appelle les excréments, c'est-à-dire, au fond, la partie nécessaire, mais au fond, pas si intéressante que ça des choses, puisque dans tout ce que l'on consomme, ce qui est important, ce sont les nutriments, c'est ce qui va nous permettre de nous développer. Eh bien, peur, c'est au fond le monde dans lequel on nous dit non, ce qui est important, c'est pas ce que la chose va t'apporter à l'intérieur de toi, c'est justement cette partie qui, à un moment, sera rejetée, mais qui va devenir un petit peu essentielle. Peur, au fond, c'est une proposition qui est faite au peuple d'Israël de ne plus du tout s'interroger sur ce que véhiculent les choses et qu'est-ce qu'elles lui apportent réellement. Je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais c'est pas grave quand on va voir un film. Mais c'est quoi les nutriments du film? Qu'est-ce qu'il va m'apporter réellement? Qu'est-ce qu'il va mettre à l'intérieur de moi-même comme image, comme élément? Alors parfois on va dire oui, sûrement des choses très belles, c'est possible, ça, c'est déjà un autre débat. Mais cette idée au moins de s'interroger, eh bien, peur, c'est justement celui qui nous dit non, surtout pas, ce qui est important, ben, c'est que c'est attirant, c'est attractif, ça a l'air d'être bon, alors faut y aller. Et puisque ça va apporter comme nutriment, ben, ne te pose pas trop la question. Peor aussi, quand vous prenez les lettres du mot peor, vous avez le mot oref. Oref, c'est quoi? C'est la nuque. La nuque, on l'a déjà une fois développé ici dans le cadre d'une émission, c'est l'absence de singularité. La nuque, c'est ce qui nous révèle qu'il y a un individu, parce qu'on voit qu'il y a une tête et puis il y a un corps, mais on ne voit pas le visage qui est l'élément qui définit l'être par excellence. Eh bien, peur, c'est aussi ça. C'est amener l'individu à ne pas se poser la question de sa singularité. Or, on sait que toute l'histoire du peuple juif, justement, elle tourne autour de la question de la singularité au niveau collectif et au niveau individuel. En tant que peuple, nous sommes un peuple singulier. Et donc, cette singularité nous amène à réfléchir sur la responsabilité que l'on a à l'intérieur de l'univers. Et puis, dans cette singularité collective, il y a l'individu, et chaque individu est un être singulier. Son visage, justement, panim. En hébreu, vous savez que le mot visage, panim, ce sont les mêmes lettres que le mot pnim. Et pnim, ça veut dire intériorité. Eh bien, on nous interroge sur cela, on nous dit, mais réfléchis sur ton intériorité, réfléchis sur ta singularité en tant qu'individu, de la responsabilité que cela crée, et comment l'exprimer le mieux possible. Eh bien, justement, Peor, c'est celui qui a voulu faire sauter ça. C'est celui qui veut que le peuple d'Israël ne réfléchisse pas sur les nutriments, mais reste que sur les dimensions extérieures des choses. C'est celui qui veut faire en telle sorte qu'on ne s'interroge pas sur une singularité collective individuelle. Eh bien, Moshe, il est en face. Moshe, justement, il reste en face pour bien montrer que, justement, si on peut le dire de cette manière, tout son combat qui a été, qui est et qui continuera à être, parce que, rappelons-nous qu'on est dans un système un petit peu hors du temps, eh bien, c'est ce combat pour justement dire non, ce qui est important, c'est de s'interroger sur les nutriments spirituels qui sont présents dans chaque élément de l'existence. Ce qui est important, c'est de continuer à s'interroger sur cette singularité collective et individuelle et d'assumer notre responsabilité. Et c'est en cela où, en effet, on voit ce qu'est véritablement le prototype du responsable dans le peuple d'Israël, Moshe. L'Okam, il n'y a pas eu de plus grand que lui qui s'est levé, l'être le plus humble, celui qui au fond, eh bien justement, n'a pensé sa vie qu'à travers la mission qui était la sienne, qui a compris que sa particularité, sa singularité, sa génialité, eh bien, était là pour être le vecteur d'une transmission, être le vecteur de la construction du peuple d'Israël, et il continue à jouer et assumer ce rôle, même après sa disparition physique, même si le verset nous dit clairement que l'onas l'echo, que le corps de Moshe reste de la même manière qu'il a été toute son existence, parce que justement, il a été quelqu'un qui a su le sanctifier pleinement, faire en telle sorte que chacun de ses éléments de son corps a servi à remplir l'objectif que Dieu lui avait fixé. Voilà un petit peu par quoi j'ai pas envie de dire s'achève la Torah, parce que la Torah ne s'achève pas, parce que comme vous l'avez fort bien dit au début, c'est un recommencement permanent, c'est un renouvellement permanent. Voilà un petit peu ce qui se trouve à la fin du livre de Devarim, comme une forme d'indication, et quelque part, eh bien, cela nous ouvre à réfléchir comment nous allons maintenant redémarrer la lecture à travers Bereshit avec cet état d'esprit que nous proposent les derniers versets de la Torah.
Il y a ce mot très beau en français qu'on utilise qui dit une conversation nourrissante, une relation nourrissante. Hein, vous connaissez ce mot, c'est tellement joli.
Exactement.
Et j'ai l'impression que c'est ce que vous venez de dire. C'est nourrissant ou pas ?
C'est nourrissant et c'est toujours nourrissant. La question est de savoir qu'est-ce que ça nourrit. D'ailleurs, cette question sur ce qu'on cherche dans une chose, vous savez, c'est un peu provocateur ce que je veux dire, mais quelqu'un qui consomme de la drogue, ce que je ne conseille à personne, qui évidemment est terriblement toxique, eh bien, c'est quelqu'un qui ne s'interroge pas sur l'emballage parce qu'il sait ce qu'il va chercher. Il sait ce qu'il va chercher, c'est ça, c'est le, entre guillemets, ce nutriment totalement toxique qu'il va chercher. Eh bien, il faut être capable de s'interroger aussi dans un monde dans lequel, eh bien, il y a beaucoup d'emballages, et les emballages des fruits qui sont là et qui sont nécessaires pour qu'on y aille, mais se dire, mais au fond, qu'est-ce que je vais chercher véritablement à l'intérieur de ça? Qu'est-ce que je cherche à y trouver? Et être capable de savoir que chaque élément auquel on est confronté peut nourrir. Mais la question est de savoir quelle est la toxicité ou la non-toxicité de cet élément nourrissant. C'est ce à quoi la Torah nous invite à réfléchir.
Magnifique, magnifique. Et on y pensera dans un endroit qui est le plus précaire possible et qu'on appelle une simple cabane, une souka. Et on va en parler ce soir dans nos familles. Ravelli Lemel, je vous remercie. Et à nouveau, Shabbat Shalom, bonne fête, Moadim Nesimcha.
Shabbat Shalom et Moadim Nesimcha.
On se retrouve dans un instant pour la suite de Kabbalat Shabbat. Et on part à présent pour Jérusalem où on retrouve le Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai Biton, Shabbat Shalom, Moadim Nesimcha.
Shabbat Shalom, Moadim Nesimcha, Chag Sameach.
Vous savez que c'est le moment de l'année où on est le plus jaloux de vous. Bon, non, il y a Hanouka aussi. Mais la Souka à Jérusalem, là, y a... vous avez des milliers d'auditeurs qui... Ils arrêtent de rire, ils pleurent en vous écoutant.
Il fait bon. On leur souhaite de rejoindre bientôt. Il fait bon, c'est vrai.
C'est très beau, mais on leur demande
douce,
de pas pleurer.
C'est une douce galoute. C'est un exil doux. Si la souka est un exil, c'est un exil agréable.
Et on leur demande de rester joyeux. D'envisager éventuellement de venir s'asseoir un jour à côté de vous sous cette belle souka à Jérusalem. Rav Mordechai Biton.
Amen.
On va parler de ben justement de Soukhot. Alors, bon, on vient de voir la paracha de la semaine, mais il faut savoir que nous sommes donc dans les fêtes de Soukhot, on le sait, et qu'il y a un invité, on appelle ça les Ushpizin. Chaque jour, il y a quelqu'un qui vient s'inviter dans la Soukha. Et là, Shabbat, l'invité, ça sera Aaron. Et Aaron, c'est l'homme de la paix. Oev Shalom, Rodev Shalom, non seulement il aimait la paix, mais il courait après. C'était le sens de sa vie, en quelque sorte, si on peut dire. Alors pourquoi Aaron était-il comme ça? Et pourquoi ce Shabbat lui correspond-il?
Alors, ce Shabbat lui correspond parce qu'en fait, chaque jour, comme vous l'avez dit, il y a un invité que nous invitons d'ailleurs, parce qu'avant de rentrer dans la souka, il y a un texte qu'on récite dans lequel on invite l'invité du jour donc à se rendre dans la souka. En fait, on lui demande de nous aider à acquérir la mida, le trait de caractère qui le caractérisait. Donc Shabbat, par exemple, on va inviter Aaron. Alors c'est intéressant que ça tombe Shabbat. Shabbat, on dit Shabbat Shalom, on souhaite aux gens Shabbat Shalom. Le Shabbat, c'est un jour qui a cette capacité de réunification. C'est le jour du Echad, c'est le jour où on se réunit. Le Shalom, c'est aussi cette même tentative de réunifier les gens, de rapprocher les gens, de faire que des gens très différents puissent se retrouver, vivre ensemble, coexister, partager. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, la préoccupation du moment. Alors à ce sujet-là, comme on dit en hébreu, meinia leinian, d'un sujet à l'autre, sans que forcément il y ait un rapport direct avec l'objet. Mais je voudrais revenir sur un point qui est un point important, et avant tout vous raconter une anecdote du Hafetz Chaim. On raconte qu'une fois le Hafetz Chaim était dans une auberge, et un homme s'est assis à deux ou trois tables devant lui, et c'est un homme qui se comportait avec beaucoup de grossièreté, qui mangeait salement, sans réciter de bénédiction, qui apostrophait la serveuse donc de l'auberge avec beaucoup de grossièreté. Et donc l'aubergiste a tout de suite vu que le Hafetz Chaim qu'il connaissait s'apprêtait à aller dire un mot donc à cet homme-là. Mais il s'est penché vers lui, il a dit « Écoutez, Rav, j'ai peur pour l'honneur qui vous est dû. Cet homme-là, on ne peut rien faire pour lui, laissez tomber. Il a été pendant 25 ans dans l'armée du Tsar. » En fait, cet homme-là est un homme qui avait été enrôlé à l'âge de 5 ans comme cantoniste, c'est le fameux décret des cantonistes où des enfants juifs étaient volés à leurs parents, à leur famille, et enrôlés de force dans l'armée du Tsar. Et pendant 25 ans, on faisait tout pour les convertir au christianisme, et ils étaient victimes de brutalité, de violence. Et alors on dit au Hafetz Chaim, ben voilà, cet homme-là, c'est un homme qui a vécu tout ça, donc vous savez, c'est pas la peine, il n'y a pas avec qui parler. Et là, le Hafetz Chaim dit quoi ? Il dit, cet homme-là, il a vécu tout ça, et il veut rester juif. Et il est encore juif, il ne s'est pas converti au christianisme. Il dit, laissez-moi lui parler. Alors il s'approche de l'homme et il lui dit la chose suivante. Il lui dit, j'ai entendu sur toi que tu es un héros, que tu as résisté à 25 ans de propagande, de violence, de harcèlement, et tu es toujours juif. Tu étais dans l'armée du Tsar et tu es toujours juif, mais tu es un héros, tu es un homme extraordinaire. J'ai envie de faire connaissance avec toi. Et je pense qu'un homme comme toi, c'est un homme qui mérite tous les honneurs. Et au fur et à mesure que le Hafetz Chaim lui parle, l'homme se met à pleurer, il pleure. Et là, le Hafetz Chaim lui dit, tu sais, je vais te dire une chose. Si déjà tu as réussi à rester juif pendant ces 25 ans, tu peux rester un juif kasher jusqu'à la fin de tes jours. Et là, tu seras l'homme le plus heureux du monde, dans ce monde-ci et dans le monde futur. Et là, le Hafetz Chaim va discuter avec cet homme, et petit à petit, cet homme va se rapprocher du Hafetz Chaim, et il va devenir, la fin de l'histoire est connue, il va devenir un tzaddik, un homme juste, un homme pur, un Baal Tshuva complet. Et alors, nous dit le Beit HaLevi dit la chose suivante, on voit ici la force de la tochacha, de la réprimande, qui est dite avec amour. Et là, il y a un point qui est très intéressant. Très souvent, les gens veulent faire des tochachot, ils veulent reprocher aux gens leur comportement. Et dans la Gemara, dans Echid, il est écrit la chose suivante. Il est écrit que Rabbi Eliezer dit, j'ai un doute si dans notre génération, donc la génération des Tanaïm, la génération des sages de la Mishnah, est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de faire des tochachot. Alors ce qui est très intéressant, parce que dans les notes, dans les annotations qui accompagnent le texte du Beit HaLevi sur Ahavat Israël, il dit la chose suivante. En fait, il y a deux types de gens qu'on peut rencontrer. On peut rencontrer des gens qui sont indifférents aux mitzvot, mais qui ne sont pas hostiles, et des gens qui sont militants, de manière hostile contre les mitzvot. Alors, il dit, celui qui écrit les annotations, il dit la chose suivante, il dit, quand on nous demande de faire une tochacha avec amour, et de ne pas détester la personne à laquelle on fait une tochacha, c'est à laquelle on fait une réprimande, en fait, on est en train de nous dire, on est en train de s'adresser à cette deuxième catégorie de personnes. Évidemment que quand on rencontre des gens qui sont indifférents et qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, évidemment qu'il faut s'adresser avec eux avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection, avec beaucoup d'empathie, mais quand on rencontre des gens qui sont hostiles, et ça c'est très intéressant parce que c'est un des points, on parle toujours de shalom, mais il faut donner des applications concrètes. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de gens qui sont virulemment hostiles à la Torah, qui sont des militants, qui sont contre. Et alors, quand la Gemara dit, j'ai un doute si aujourd'hui il y a des gens qui peuvent faire des tochachot, qui peuvent faire des réprimandes à ces gens-là avec amour, c'est à ces gens-là qu'on parle, parce que c'est un exercice périlleux. Il faut d'un côté les aimer en tant que juifs, et de l'autre côté, il faut détester leurs actes et leur manière de se comporter. Et en même temps, quand on s'adresse à eux, il faut penser qu'ils ont suffisamment, une étincelle juive suffisamment forte pour que ça puisse réveiller quelque chose chez eux. Donc on va leur parler, ça va réveiller quelque chose chez eux. Et là, je pense qu'il y a ici une des clés du shalom. Parce que parler du shalom quand tout va bien, oui, effectivement, on peut facilement vivre shalom avec des gens avec lesquels on s'entend bien, avec lesquels on fonctionne bien, avec lesquels on communique positivement, même s'ils n'ont pas les mêmes convictions que nous. Par contre, c'est beaucoup plus dur lorsque dans une famille, dans un groupe, dans une communauté, dans un pays, les gens sont très hostiles l'un à l'autre. Et donc, ce qui nous est dit ici, c'est la chose suivante. C'est que si on n'est pas capable de ne pas se mettre en colère, si on n'est pas capable de ne pas s'énerver, souvent les gens, quand ils ont des discussions sur des sujets religieux, souvent ils s'emportent, ils ont un vocabulaire parfois qui est un petit peu tranchant. Alors, la personne qui annote, là, ici, elle dit la chose suivante. Elle dit, si on n'est pas capable de ne pas se mettre en colère, c'est pas la peine. On est dispensé de la mitzvah de Torah. Parce qu'une mitzvah de Torah, la mitzvah de réprimander, elle doit conduire à l'amour. Comme le dit le pasouk dans Michelet, Ochiach Aletz Veisnaika, si tu fais des Tochachot Oletz, celui qui tourne tout en dérision, il va te détester. Si tu fais Ochacham, Veyefra, le Chacham, lui, il va t'aimer. Et la preuve que la réprimande que tu as faite, elle est portée par l'amour et par l'affection, c'est la réaction de l'autre. Si l'autre, il a une réaction d'intérêt, ça prouve que dans ton cœur, il y a beaucoup d'amour et il y a beaucoup d'affection, et donc que tu es capable de faire passer le message. Donc, ce qui nous est dit ici, c'est ça qui est fondamental, et ça qu'on apprend de Aaron, parce que Aaron, c'était quelqu'un qui était capable, comme le Hafetz Chaim, qui était un Cohen, un descendant de Aaron, il était capable de s'adresser à chaque juif, quelle que soit son attitude, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, beaucoup d'affection. Il était capable de ça. Il avait cette force. Et cette force, elle se reflétait dans l'attitude de celui qui recevait cette tochacha, cette réprimande. Et donc, en fait, c'est finalement la clé. La clé des conflits. Souvent, quand les gens sont en conflit, on leur demande de regarder ce qu'il y a de positif chez l'autre. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'Aaron réglait les conflits. Il disait, tu sais, l'autre, en fait, il a changé d'avis à ton sujet. Il regrette ce qu'il a fait, même si c'était faux. Et ça, je crois que c'est tout à fait fondamental, parce que ce changement de point de vue sur l'autre, c'est ce qui fait que finalement, on peut rentrer en contact avec l'autre. Et c'est quelque chose qui est au cœur de Soukhot, pour avancer dans notre réflexion et pour conclure. Qu'est-ce qui se passe à Soukhot ? Dans le Mirtav Meliaou, au sujet de Soukhot, il est rapporté un midrash qui se trouve dans le Yalkout, où il est dit que lorsque les Bnei Israël ont été jugés, nous, les Juifs, vous, moi et tout le monde, on a été jugés à Rosh Hashanah et Kippour, il est possible qu'on soit sortis donc coupables de notre jugement, et donc Akadosh Baruch Hu va nous exiler dans la Soukha, et si on s'exile dans la Soukha, il considère que c'est comme si on était exilé en Bavel. C'est comme si on était parti en exil. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. Pourquoi est-ce que, on m'a posé d'ailleurs cette question parmi les auditeurs et les auditrices de Torah Box, sur la question de savoir pourquoi finalement Soukhot vient après Kippour. Et le Mirtav Meliaou répond à cette question en disant la chose suivante. Il dit en fait, quand on va dans la Soukha, en fait on part en exil. Mais finalement c'est quoi cet exil dans la Soukha? C'est un changement de point de vue. On peut dire les choses, on peut imaginer les choses de la manière suivante. Par exemple, moi j'ai un balcon sur lequel je fais ma Soukha. D'ordinaire, je regarde mon balcon à partir de mon salon. Mais quand je suis dans la soukha, je regarde mon salon à partir de ma soukha. C'est complètement différent. Parce que là, je réalise qu'en fait, le salon dans lequel je vis, la maison dans laquelle je vis, le monde dans lequel je vis, il est provisoire. Et en fait, le changement de position, le changement de lieu, le changement de place, c'est un outil thérapeutique extraordinaire. Dans les conflits, on dit toujours aux gens, vous ne voulez pas rester en conflit, changez de place. Arrêtez d'observer l'autre à partir de ce point de vue. Essayez d'avoir un autre point de vue, essayez de comprendre l'autre. Et en fait, c'est la même chose. Pour que nous, on puisse essayer de se comprendre, qu'on soit béchalom avec Akadosh Baruch Hu, béchalom avec nous-mêmes, béchalom avec les autres, on va aller dans la soukha, et notamment le jour de Aaron, par exemple, c'est un jour où on va regarder le monde à partir d'un autre point de vue. Et dans les thérapies, on le voit beaucoup, changer de place, changer de makom, comme on dit en hébreu, c'est s'offrir la possibilité de regarder le monde et le rapport à l'autre d'une manière un peu nouvelle. Et ça, c'est la clé du shalom qu'on recherche quand il y a un conflit. Quand il y a un conflit, c'est par là que vient le shalom, la capacité à changer de place. Et ça, c'est au cœur de cette problématique de la soukha et au cœur donc, de ce Shabbat qui va arriver, qui est le Shabbat où Aaron va être donc notre invité. Donc à toutes et à tous, Shabbat, Shalom et Chag Sameach.
Chag Sameach, Rav Mordechai Biton, et je pensais en vous écoutant que d'où l'expression française « rester dans une position figée ». C'est vraiment c'est intéressant. C'est ce que vous dites, voilà, savoir bouger. Et donc accepter des compromis. Rav Mordechai Biton, à nouveau, je vous souhaite de Shabbat Shalom déjà, Shabbat avec Shalom. Un beau Shabbat que je vous souhaite ensoleillé à Jérusalem sous votre soukha, et Moadim Nesimcha. Bonsoir à vous.
Bonsoir,
Shabbat Shalom. Samer. On se retrouve dans un instant pour la suite de Kabbalat Shabbat. Cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à toutes Shabbat Shalom, Moadim Nesimcha.
Shem lo yivne ba'yit, shalom le'voy na'voy, yim ha'shem lo yishmarih, shav shokat shoy ma'ay. Yim ha'shem lo yivne ba'yit, shalom le'voy na'voy, yim ha'shem lo yishmarih, shav shokat shoy ma'ay.